Bon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien pour cette Pâques. C'est toujours un moment particulier. Et voilà, avant de commencer, je voudrais vous dire mon état d'esprit. Je suis très touchée et honorée de pouvoir apporter le message aujourd'hui, le jour de la Pâques. Donc je remercie cette église voilà, de donner la chance aux femmes de pouvoir apporter un message. Et de pouvoir regarder les cœurs. Merci beaucoup, je suis honorée. Alors pour commencer, vous savez, ça fait longtemps que je suis chrétienne, mais mon parcours, il est variable, on va dire. Et il y a 5 ans, je me posais toujours la nécessité de la croix. Je posais toujours cette question à Dieu, pourquoi il fallait forcément que Jésus mort sur la croix? Je trouvais ça horrible, en fait. Ces supplices, ces clous dans les mains, je comprenais pas pourquoi un Dieu si bon avait dû forcément passer par là. Ça me faisait mal et je lui disais toujours, mais t'aurais pas pu faire autrement. Je parle comme ça moi, Dieu, quand je comprends pas. Et je me souviens un jour, alors que j'étais en train de préparer des activités pour les enfants, d'avoir regardé une série La Bible. Je ne sais pas si vous la connaissez, La Bible. Vous devez forcément la connaître. Ça a été fait par des super protestants aux États-Unis. Et quand j'ai regardé, donc j'ai tout suivi le parcours de Jésus. J'ai tout regardé en une après-midi tellement j'étais passionnée par la manière dont il retranscrivait les événements. Et le moment où il est mort à la croix, je m'en souviens encore, je peux avoir la boule dans mon ventre, j'étais complètement en pleurs. Je pleurais devant mon ordinateur chez moi, dans mon salon, j'étais comme ça, je pleurais. Et je me disais, c'est tellement injuste. Mon cri de cœur, c'était, c'est injuste. Il est bon, il est beau. Pourquoi? Je me sentais tellement petite, tellement rikiki. Face à ce qu'il avait été capable de faire. Et je sentais, on a beau s'aimer, mais mourir pour les autres alors que tu n'as rien fait, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur à accepter. Et je connaissais la définition de la réponse. Il est mort pour nos... Merci. Et on va le refaire. Il est mort pour nos... Voilà. C'est la définition, tout le monde la connaît. Ok. Cela dit, je vais être honnête avec vous, je la trouvais pompeuse, cette réponse. Je la trouvais très pompeuse, parce que le péché, c'est pas un mot qui est à la mode. C'est même un mot qui veut un peu, qu'on peut ressentir un peu comme flagellant. On se flagelle, on est sous le péché, non, il faut être sous la culpabilité. Et moi, ça ne m'allait pas très très bien, parce que j'avais grandi dans le fait qu'il fallait voir le beau dans l'homme. Il fallait regarder et fixer son regard sur ce qu'il y a de plus beau en chacun de nous. Et je ne voulais pas voir cette partie plus noire, mais qui est pourtant bien là. Je n'avais pas envie de regarder cela. Je n'avais pas envie de regarder aussi en moi, et de pouvoir me dire qu'éventuellement, je n'étais pas si parfaite que ça. Et ça demande une sacrée dose d'humilité de se dire que, en effet, si le paradis est tel qu'il est, alors, je ne sais pas comment y accéder, car mes pensées ne sont pas toujours pures. J'ai commencé à comprendre la nécessité de cela. Mon regard est toujours fixé sur ce qu'il y a de plus beau. J'essaye au maximum, à chaque fois, de considérer que je suis une merveilleuse créature, tout en même temps avoir besoin du sacrifice de Jésus à la croix. Nous devons trouver cet équilibre entre la merveilleuse créature que Dieu a créée pour nous et pour nos frères et nos sœurs, et cet équilibre de comprendre que nous avons besoin de lui quand même. Et alors, il y a quelque chose qui est beau, c'est de se dire, le péché existe, mais il n'est pas totalement de notre ressort, quelque part. On sait bien que avec Adam et Ève qui sont morts à la croix, c'est comme si le péché nous avait contaminés, malgré nous, dès que nous naissons avec cela. Et donc, moi, ça m'apaise personnellement de me dire que c'est pas totalement de ma faute. Cela dit, voilà, maintenant j'accueille le fait que je dois lutter aussi parfois pour ne pas céder au péché qui peut toquer à ma porte. Alors voilà, pour comprendre la croix, et je remercie Michael pour cela, je vois comment l'esprit conduit les choses. J'avais marqué, il faut comprendre le plan de sauvetage en mer. Il faut comprendre le plan de sauvetage pour vraiment comprendre ce qu'est la croix. Et le plan de sauvetage, c'est du début jusqu'à la fin, donc depuis Adam et Ève jusqu'à l'Apocalypse. Et la croix est le centre de tout. Un acte tellement puissant qui peut renverser une vie entière. Et cela, ce plan de sauvetage, on est appelé à le comprendre dans la globalité de l'humanité, mais aussi pour chacun d'entre nous, pour notre vie personnelle. Nous sommes tous différents. Nous venons tous d'un milieu différent. Nous avons grandi différemment, avec des cultures différentes. Et pourtant, dans notre histoire personnelle, Jésus se révèle être ce berger magnifique qui prend soin de nous et qui a été capable de mourir pour nous. Alors, je suis intimement convaincue, vraiment, que pour notre vie personnelle, mais pour la vie du monde entier, la question la plus importante auquel chacun, chaque être humain, un jour sera devant, la question c'est qui est-il ? Qui il est ? Quelle que soit l'étiquette que nous portons, quelle que soit notre culture, qui il est encore aujourd'hui pour toi, pour moi, pour nous ici dans l'Église, mais pour nos voisins. Alors, voilà, je vais vous expliquer un peu Pâques et le roseau. Vous vous demandez, mais pourquoi le roseau ? Je vais vous expliquer. Cette question, qui il est, c'est le motif de sa condamnation. C'est pour cette question-là qu'il est mort. Et elle est tellement importante, cette question, qu'on, dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'on étudie, on voit que c'est la question centrale de l'évangile de Matthieu. Au milieu de l'évangile de Matthieu, il y a cette question qu'il pose à Pierre et aux disciples. Qui suis-je pour vous ? Ok. Et cette question, elle peut poser un tremblement de terre dans ta vie. Littéralement, elle peut tout changer. Tout. Peut-être tu ne l'as pas encore vécu vraiment. Mais il est sûr que ça peut faire un tremblement. Alors tu vas trop vite. Je te le dirai après, c'est pas grave. Et cette question, je vous la pose à vous. Alors, avant de lire l'évangile, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire, on peut chacun avoir une réponse à cette question, qui il est. Ok. Mais le plus important, c'est surtout le sens que ça a. Parce que les Juifs pensaient qu'il était, voilà, un imposteur, et la réponse, il est le roi des Juifs, les embêtait. Pourquoi ? Parce que les Juifs attendaient le Messie. Le Messie, dans leur contexte, c'était celui qui allait les sauver de l'occupation romaine. Ok. Mais il était bien plus que cela. Il était bien plus que cela. Et cette réponse, ce sens qu'ils avaient, le sens qu'ils avaient du roi des Juifs, n'était pas forcément le bon. C'est une invitation pour moi à vous demander, lorsque vous disiez quelque chose, allez dans le sens profond des choses. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, profondément ? Et oui, il est le roi, mais il est venu surtout nous sauver, pas forcément des Romains, et encore aujourd'hui les Romains ne sont plus en Israël, merci Seigneur, mais il est venu nous sauver du péché. Et c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Car passer son éternité en enfer, ça dure beaucoup plus longtemps que la vie. Que la vie que nous vivons en ce moment, qui n'est qu'un passage. Alors, est-ce que vous connaissez les attributs du roi ? C'est-à-dire, lorsqu'on présente un roi, qu'on fait une belle photo d'un roi terrestre, on lui met quoi ? Vous pouvez intervenir. une couronne. Très bien. Après. Et quoi? Un manteau, un beau manteau, bien moumouteux, ok? Et un sceptre. Et là, on va en venir au passage de l'évangile. J'aimerais vous partager ce qui s'est passé récemment pour moi dans ma communion avec Dieu. Je vais donc vous partager mon intimité avec Dieu. Et pour ceux qui ne savent pas, on vient de passer une période à l'église compliquée. On a dû élire de nouveaux présidents. Dans une église, il y a des présidents d'associations. Et dans cette église, il y a deux associations. La première est Source de Vie, une association cultuelle, et c'est Michael qui a repris la présidence. Et il y a une deuxième association qui s'appelle Les Roseaux. Et Les Roseaux, j'ai repris la présidence. Mais pour cela, il a fallu que Dieu nous parle. On ne reprend pas une responsabilité comme ça. Et Michael a été encouragé lors d'un week-end qu'il a passé, un week-end spirituel qu'il a passé avec Franck Alexandre pour dire oui. Et moi, je vais vous expliquer comment j'étais encouragée. Donc on m'a proposé de devenir la présidente de l'association des Roseaux. Le jour même, du soir, je vais dans la Bible pour commencer à réfléchir à ce que Dieu veut que je dise pour vous aujourd'hui. Et je tombe sur ça. Vas-y, merci. Quelqu'un veut lire à ma place? Ah, merci Thérèse.
Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements. Ils lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans sa main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Du midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là après l'avoir entendu disaient « Il appelle Élie ». Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons, si Élie viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte. La terre trembla, les rochers se fendirent après la résurrection de Jésus, et apparut un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour le garder furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée.
Merci Thérèse. Dieu nous parle. Il nous parle. Ça a été un vrai électrochoc. Je n'avais jamais, j'ai 40 ans, en 40 ans de vie, je n'avais jamais remarqué que le sceptre royal de Jésus était un roseau. Alors bien sûr, c'était un geste de moquerie. On a bien conscience. Mais alors que nous pouvons, nous hommes, parfois utiliser la création comme geste de moquerie ou qu'on l'utilise mal, Jésus peut, lui, le magnifier. Car je suis sûre que ce roseau dans sa main était très beau, malgré la déchéance de ce moment. Et moi, ça m'a parlé et ça m'a encouragé à dire, il faut que j'y aille. Il y a une chose, du coup, qui est très importante et que je pense que le Seigneur veut que je vous dise par rapport à cette association des roseaux. Et la première chose, c'est que Jésus relève le moindre. Il relève ce qui est moindre. Ça me touche vraiment que vraiment Jésus puisse regarder ce qui est petit. Tout petit. Ça me touche vraiment que le Seigneur puisse voir celui qu'on ne voit pas. Celle qu'on ne voit pas. Et, alors je vais vous montrer d'habitude ce qu'est un sceptre royal. La reine d'Angleterre. Elle est belle. C'est une belle couronne. Un beau manteau moumouteux. Et son sceptre qu'on voit à droite. Magnifique. De diamant. Jésus mérite un sceptre comme ça. Et pourtant, voilà ce qu'il a eu dans la main. Vas-y, tu peux cliquer. Il a eu ça. Mais peut-être que c'est tout aussi magnifique. Peut-être notre regard doit être transformé. Et Jésus est roi, mais pas à la manière de ce monde. Jésus ne porte pas le même regard sur ce que nous jugeons moindre ou petit. Et Jésus, tout au long de ce ministère, a le cœur de relever le plus faible. Le plus faible. Les derniers, les laissés pour compte, les publicains, les pécheurs, les pauvres, tous ceux qui sentent mauvais, qu'on ne veut pas toucher, ceux qu'on considère comme pas assez méritants pour s'approcher de Dieu. Lui, il dit non. Moi, je regarde les lépreux. Moi, je regarde les paralytiques. Moi, je regarde ceux qu'on laisse dans une piscine de Bethesda en train d'attendre d'être guéris. Je les regarde. Je les vois et je vous vois. Et j'ai envie de vous dire que Jésus vous dit, chacun d'entre vous, qu'il vous voit. Il nous voit. Il fait des promesses magnifiques, magnifiques. Il dit, dans le Sermon des montagnes, il fait des promesses de bonheur aux plus petits. Il dit, les assoiffés de justice, les pauvres, les persécutés, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, les miséricordieux, les cœurs purs. Nous faisons du mieux que nous pouvons pour garder notre cœur de l'orgueil et de la violence. Je suis intimement convaincue que nous faisons tout pour trouver le chemin. Et Dieu voit cela. Et il promet que les derniers seront les premiers. Waouh ! On va être surpris. On va être surpris quand on sera au paradis. On se dit, ah, elle ? Oh, ok. Elle est là, elle est juste à côté de lui. Ok. Et peut-être le plus grand ministère. Eh ben, voilà. On ne sait pas. Et peut-être que si. Mais il nous fait la promesse que les derniers seront les premiers. C'est vraiment une consolation pour moi. Vraiment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'association des roseaux? Eh bien, si j'ai bien compris, puisque je suis là depuis un an seulement, cette association des roseaux, elle est là depuis longtemps. Et on ne la voit pas beaucoup. Elle est discrète. Elle continue son œuvre, petit à petit, sans crier « Oh, je fais ça! Oh, je fais ci! Oh, je fais ça! Ah, mais regardez, je suis formidable! Mais vous voyez ce que je fais ?» Non. Elle le fait. Et c'est bon, parfois on la met à l'honneur. On dit « Bah, on a fait ci, on a fait ça. » Et on se réjouit avec elle. Et je pense que Dieu a voulu me dire, je la vois, cette association. Elle est moindre, mais je la relèverai. Ça m'a vraiment encouragée. Alors, pour cela, pour continuer, j'ai envie de vous parler du roseau. C'est quoi le roseau? En réalité, est-ce qu'on connaît le roseau? Ce qu'est un roseau? Vas-y, tu peux commencer. Alors, je suis allée sur un site de jardinage. Oreca, je ne sais pas s'il y a des jardiniers ici. C'est un très bon site. Vas-y, tu peux cliquer. Donc le roseau commun, Phragmite australis, excusez-moi mon latin, est une plante semi-immergée pouvant former une jolie roselière abritant une vie intense. Oiseaux et libellules. Clique. J'ai vu en cela une promesse d'une maison pour beaucoup. Cette association des roseaux va être une maison pour beaucoup. Oiseaux, libellules, des gens qui vont venir de toutes parts et qu'on pourra accueillir tels qu'ils sont. La grande taille des roseaux et leur occupation en bordure de plans d'eau ne les destinent pas à être victimes de maladies ou de parasites. Aucune mesure préventive n'est demandée. J'ai vu en cela, tu peux cliquer, une promesse de protection. Cette association est protégée et depuis longtemps. Et elle ne sera pas malade, elle ne sera pas atteinte par la maladie. Ensuite, le roseau contribue à la lutte contre la pollution des eaux. Il est recommandé dans les grands espaces en limite de zone aquatique pour dépolluer le sol. Il gagne à être groupé pour protéger une partie du plan d'eau des vents dominants, parfois gênants pour d'autres cultures. J'ai vu la promesse d'assainissement du lieu. Et on le sait, il y a souvent des jeunes qui viennent dans le coin là et qui viennent fumer de la drogue. On le sait, on le voit. J'ai vu une promesse d'assainissement de ce lieu. Quand je parle par la foi. J'en ai pas la preuve. Ensuite, le roseau commun se propage essentiellement par voie stolonifère. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Les rhizomes s'étalant facilement. Ça, j'ai compris. Il n'y a donc rien à faire pour leur propagation. Et j'y ai vu comme une promesse de multiplication simple. Ça va se multiplier. Et n'est-ce pas un peu le cœur de l'Église ? N'est-ce pas ce que, ici, dans l'Église, on veut ? On veut que la parole de Dieu puisse atteindre tout le monde. J'ai vu un outil et un encouragement formidable à comprendre ce qu'était le roseau. Nous sommes dans le quartier des roseaux, si j'ai bien compris. Et lorsque je me baladais tout le temps, je voyais des roseaux partout. C'est comme si le Seigneur me disait « Roseau, 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 va voir ce qu'est un roseau, il y a une signification, il faut que tu le dises à l'église. » Alors je l'ai fait, j'espère que ça vous plaît. Alors, il y a autre chose. Dans la deuxième partie, on voit bien donc que lorsqu'on met le sceptre du roseau dans la main de Jésus, c'est un geste de moquerie. On le comprend bien. Mais dans la deuxième partie, j'y vois personnellement plus un geste de charité. C'est un débat chez les exégètes. Il y en a qui disent que c'est de la moquerie, il y en a qui disent que c'est de la charité. Je fais le choix de dire que c'est un geste de charité. Pourquoi ? On considère que parce qu'on donne du vinaigre à boire à Jésus, c'est pour se moquer de lui. Mais c'est parce qu'on lit avec nos yeux d'aujourd'hui. Nos yeux d'aujourd'hui, si quelqu'un arrive et qu'on lui sert du vinaigre, c'est pas très sympa. Le but n'est pas d'être gentil. Mais du temps de Jésus, lorsque le soldat trempe l'éponge dans ce qu'on appelle le vinaigre, en grec c'est oxo. Et oxo, c'est le posca. Le posca, c'était une boisson, la boisson des soldats, qu'ils buvaient eux-mêmes, qui était un vin amer, qui avait un peu tourné, mélangé, coupé avec de l'eau et parfois avec du jaune d'œuf. Et on appelait ça le posca. Et en fait, eux-mêmes le buvaient. Et donc, j'y vois plus, pas un geste de moquerie, mais voilà, mon cœur est touché là. Je suis un soldat romain, je vois ce qui se passe. Ok, je me suis moqué de toi. Ok, j'ai peut-être pas été sympa, mais là, je vois. Je commence à voir. Alors, je vais mettre ce roseau que j'ai utilisé pour te frapper tout à l'heure. Je vais le mettre au bout d'une éponge. Je vais te donner ce que j'ai. J'ai pas grand-chose. J'ai du petit vin, pas très bon, et je vais te donner à boire. Et j'y vois une promesse pour les roseaux, pour cette association des roseaux, c'est que ça soit un acte de charité. Peu importe qui tu es, peu importe ta foi, peu importe ta culture, tu seras le bienvenu dans cette association, et tu pourras vivre et goûter l'amour de Dieu. Et si ton cœur t'en dit, tu pourras aller plus loin et nous rejoindre à l'église. Un vrai geste de charité gratuit, sans condition, tel que Jésus a fait à la croix pour nous. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est beau. De donner de l'amour gratuitement comme ça, sans rien attendre. Alors, J'ai une dernière chose à vous dire, avant de vous montrer un peu la petite surprise que je vous ai concoctée. Rien ne se perd. Un jour peut-être t'as pleuré tout seul dans ta chambre. Un jour peut-être tu as été maladroit ou maladroite avec ton frère ou ta sœur. Peut-être un jour tu as rêvé de quelque chose et tu te dis tu fais cette prière là. Bon. Rien ne se perd. Rien. Et ce roseau, alors que Jésus le regardait, ça me touche à même l'idée de croire que lorsqu'il a vu ce roseau, il a pensé à nous aujourd'hui. Il savait déjà qu'aujourd'hui, dans ce quartier des roseaux, ce roseau avec lequel on prenait pour se moquer de lui serait un message d'espoir pour nous. Et c'est peut-être un peu prétentieux, mais je me dis, peut-être que ça lui a donné le courage de supporter ce qu'il devait supporter pour nous. De se dire, dans cette petite église-là, en 2023, ce roseau sera un message d'espoir. Alors je le prends, ce sceptre. Je le prends pleinement. Vous savez, quand j'étais petite, j'habitais à Attiche et j'allais au collège de Thumerie. Et je passais en bus tous les jours devant un super beau château blanc. Je passais devant et je me disais, moi qui étais pauvre et qui habitais une petite maison, waouh, mais qui habite là-dedans? Mais qui est dans ce château blanc? Moi, j'aimerais y aller. J'aimerais pouvoir y aller. Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'y aller? Et c'était comme une prière dans mon cœur. Rien ne se perd. Quand on est petit, toutes les prières sont entendues de Dieu et se réalisent un jour. J'y suis allée il y a un mois. J'ai rencontré cette église. Dieu me conduit et c'est une église qui, voilà, dont certaines personnes possèdent ce château par miracle. Et j'ai été invitée et j'y suis allée. Et il y a un mois, je suis rentrée dans ce château. Ça avait vraiment une saveur particulière pour moi. Rien ne se perd, rien. Alors pour conclure, j'aimerais vous mettre à contribution. Parce que c'est bien de parler, de parler, de parler. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est que vous puissiez repartir chacun d'entre vous avec quelque chose de beau à retenir. Et voilà, quand j'ai préparé ce prêche, je me suis amusée à créer ce tableau pour vous. Et je vous ai dit, je me suis dit, je vais vous le montrer comme ça, pour moi qui est, quel genre de roi est Jésus? Vous voyez? Et pour moi, Jésus est le roi des petits. Et ça, ça me conduit, chaque jour de ma vie, le roi des petits. Mais vous, ce qui m'intéresse, c'est que vous inscriviez, vous, quel genre de roi il est. Comment vous le comprenez? Quel sens profond vous mettez à ce mot « il est notre roi » Alors peut-être que pour des personnes ici, il n'est pas encore votre roi. Peut-être. Et on le respecte et vous êtes toujours les bienvenus. Alors du coup, s'il n'est pas votre roi, vous pouvez écrire ce qu'il est et ce que vous aimez chez lui. Qu'est-ce qu'il vous touche? Qu'est-ce qui le définit et qui dit ça, oui, ça, je le prends de toi. Je l'accepte, je le reçois. Alors, je vais demander aux enfants de venir. Il y en a deux, c'est bien. Venez. Venez. Vous savez, si vous me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup à cœur les enfants. Et j'aime toujours les mettre à contribution. Alors, les enfants. Fleur, va chercher aussi les petits. Ah, super. Quel travail magnifique. Toi, tu vas prendre les stylos qui sont par terre, regarde, ici. Tu vois? Ouais, les deux, oui. Et je vais vous mettre à contribution. Chacun, vous allez recevoir un petit oiseau. OK? Et sachez que ce que vous allez être écrit sera pleinement accepté, reçu. Nous sommes tous différents. Et nous devons apprendre à nous accepter différents. Donc, Fleur va vous distribuer à chaque fois un petit oiseau. S'il n'y a pas de petit oiseau, je m'excuse. J'en ai fait 20 et vous êtes plus nombreux. Tant mieux, merci Seigneur. Vous allez recevoir un petit carré et je ferai un oiseau pour vous chez moi. Et je collerai dessus. Ok ? Et donc, et Naomi vous donnera un posca. Ok ? Est-ce que vous avez compris ? Oui ? Est-ce que je peux avoir un petit air de guitare ou de piano derrière ? C'est toujours mieux de réfléchir avec de la musique, je sais pas. On y va ? Allez. Merci Seigneur. Alors que mes frères et mes sœurs écrivent comme un cadeau pour toi ce qu'ils voient de toi comme roi, je te remercie d'être venu pour nous et d'être ce roi des petits. Tu es aussi le roi des grands, mais je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui le fait que tu vois les plus petits. Merci pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui vont écrire ce mot. Et nous allons réaliser ensemble ce tableau royal pour toi. Continue à te révéler dans nos cœurs et à nous dire quel roi tu es. Merci pour toutes ces prières que nous avons faites et que tu as réalisées. Et toutes ces prières que nous avons faites qui ne sont pas encore réalisées. Seigneur, nous sommes là et nous attendons, nous nous efforçons de mettre en place les 9 fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, l'amabilité, la maîtrise de soi, la foi. Seigneur, vraiment que nous puissions aussi être patients. Ce fruit de l'esprit qui nous habite. Et nous, je déclare que nous sommes déjà patients. Merci Seigneur pour tous ces petits mots. Et que tu puisses grandir comme le roi des petits dans nos cœurs. Amen. Alors je vais ramasser les copies.